Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ et sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir le professeur Paul Loubet, infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes, spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des infections respiratoires, qui va nous parler aujourd'hui de la grippe. Bonjour et merci à vous d'être avec nous, Paul Loubet.
Bonjour.
La grippe est une infection respiratoire contagieuse due au virus influenza, dont la particularité est la grande variabilité génétique. C'est un enjeu de santé publique du fait des épidémies saisonnières qui touchent chaque année 2 à 6 millions de personnes en France, avec un excès de mortalité attribuable à la grippe d'environ 10 000 décès, principalement chez les sujets fragiles. La grippe est due à un virus. Dans le langage de tous les jours, on parle de microbes, des êtres vivants minuscules induisant des maladies ou qui sont des vecteurs de la transmission d'une maladie. Mais pour vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, quelles sont les différences entre bactéries, virus, prions, et s'il y a lieu avec d'autres microbes comme les parasites, les champignons?
Alors oui, c'est effectivement une question qui est relativement large. Quand on parle d'agents infectieux de manière générale, on va souvent faire la différence entre les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, qui ont tous pour point commun de pouvoir infecter l'homme, les différents organes du corps humain. La différence entre ces quatre grands agents infectieux, ça va être principalement leur taille, et puis leur constitution, faite d'un noyau ou non, faite de plusieurs cellules ou non. Donc c'est vrai que par ordre croissant de taille, on va avoir les virus, puis les bactéries, puis les champignons, puis les parasites. Voilà.
Et parlez-nous des prions. Alors, les prions, d'après ce que j'en sais, mais vous êtes spécialiste, c'est biologique, minéral, on ne sait pas trop.
Ouais,
on a été en contact avec eux, avec Christelle Jacob, l'épisode de la vache folle dont on ne parle plus. On peut manger du steak en toute tranquillité. Ouais. Un prion, pour nos éditeurs, c'est quoi?
En fait, un prion, ce n'est pas vraiment un agent infectieux, c'est une protéine, simplement. Une protéine qui va prendre une conformation particulière, qui va la rendre pathogène et qui pourrait avoir un potentiel infectieux aussi, en fait, en modifiant à la fois sa propre conformation et puis la conformation de ses voisines. Et donc, on ne sait pas à proprement parler un agent infectieux en soi, c'est plutôt une protéine.
Ouais, c'est une protéine.
Et ces protéines sont responsables, comme vous l'avez dit, de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qu'on a appelée la maladie de la vache folle.
Ouais, alors ça s'attrape en mangeant ces protéines.
Ça,
on peut respirer à côté d'une vache folle,
on
ne devient pas fou, mais c'est en mangeant les steaks où il y a cette protéine qui fait qu'on peut attraper. Nos protéines elles-mêmes se modifient et on tombe malade. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les causes de la grippe?
Alors, donc, la grippe, c'est dû au virus influenza, donc, qui est un virus pour lequel il existe plusieurs sous-types qu'on va nommer par des lettres, A, B, qui sont les principaux. Il existe également un sous-type C, un sous-type D. Mais si on s'intéresse plutôt aux virus de type A et de type B, c'est les virus qui vont toucher principalement l'homme. C'est donc un virus respiratoire qui se transmet par voie aérienne. Il existe donc ces deux grands types, le virus de type A et le virus de type B. Le virus de type A étant connu comme étant le plus grave, on va dire, responsable des épidémies, voire des pandémies.
Et une question qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle beaucoup de grippe aviaire, donc la grippe des oiseaux. Est-ce que c'est le même virus, l'influenza, qui donne? Est-ce qu'il peut y avoir, enfin, on le sait avec le SRAS, mais est-ce qu'il peut y avoir passage entre les oiseaux et l'homme?
Oui, tout à fait. Donc c'est un virus, ce virus de la grippe qui est un virus humain, mais qui est également un virus animal. Et donc pour le virus de type A, on sait que c'est un virus qui touche l'homme, qui touche également les oiseaux, et on parle dans ce cas-là de virus ou de grippe aviaire. On sait que ça peut toucher également les porcins. Et le grand risque en fait avec ce virus de type A, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des réajustements entre un virus humain, un virus aviaire et éventuellement un virus porcin.
Ah oui.
Ce qu'on sait, c'est que le passage de la grippe aviaire qui touche uniquement les oiseaux est très rare à l'homme. Par contre, la grande crainte pour les années à venir, c'est qu'un virus aviaire se recombine avec un virus porcin, et les virus porcins sont beaucoup plus ont une affinité beaucoup plus importante avec l'homme, par exemple. Et donc, si on a une recombinaison entre le virus humain, le virus porcin et le virus aviaire, là, on pourrait, en fait, là pourrait se créer un virus qui soit beaucoup plus grave et très transmissible à l'homme.
Et alors, existe-t-il une histoire de la grippe ?
Alors, oui, là aussi, c'est très intéressant, comme l'historique des maladies infectieuses. C'est que la plupart des maladies infectieuses existent depuis des années, des centaines, voire des milliers d'années. Il y a des maladies qui émergent, des maladies qui réémergent. Ce qu'on sait avec la grippe, c'est que dans l'Antiquité, en tout cas en Grèce antique, avaient été décrites des épidémies par Hippocrate, notamment de toux, puis de pneumonie, qui pourraient être peut-être attribuables à la grippe.
La grippe, oui.
Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, le virus... de la grippe porcin puis humain ont été mis en évidence au début du XXe siècle, dans les années 1930. Mais on sait qu'il y a eu des épidémies, notamment la fameuse grippe espagnole en 1918. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu des épidémies probablement depuis le début de l'humanité liées au virus de la grippe.
Alors indépendamment des épidémies, des pandémies grippales plus meurtrières, sont susceptibles de survenir plusieurs fois par siècle lors de l'émergence de nouvelles souches virales hautement contagieuses en conséquence de l'absence d'immunité dans la population humaine. Pouvez-vous nous en parler ? Pouvez-vous nous parler de ces pandémies ?
Oui, tout
à fait. D'abord, définissez-nous ce qu'est une pandémie.
Donc une pandémie, c'est donc une épidémie, c'est quand on a un nombre très important d'une maladie infectieuse qui va survenir dans un endroit localisé. Une pandémie, c'est quand cette épidémie va en fait toucher la totalité de la planète. Donc ça a été le cas avec la pandémie de Covid-19, mais ça peut être le cas. Donc on sait que chaque année, il y a des épidémies de grippe, c'est-à-dire que des virus vont circuler de manière très localisée et puis courte dans le temps. Et puis la pandémie, c'est quand un virus nouveau arrive et en fait va circuler à peu près en même temps partout dans le monde.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ce virus mute aussi facilement ?
C'est un peu dans ses caractéristiques. En fait, c'est qu'il y a des virus qui sont plus ou moins stables. On sait que le virus de la grippe mute assez facilement.
Bon, d'accord. Ça fait partie de lui, quoi.
Exactement.
Il est fait comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes de la grippe ? Alors, je rappelle que les symptômes sont des signes, des signes que les médecins, par leur art, regroupent en syndrome, avec une étiologie, c'est-à-dire une cause. Ça donne des maladies auxquelles on donne une explication anatomopathologique ou physiopathologique et qui débouche sur un traitement ou pas. Alors, quels sont les symptômes de la grippe, s'il vous plaît ?
Alors, les symptômes de la grippe, on associe en général donc une fièvre qui est relativement élevée, qui peut aller jusqu'à 39-40 degrés. Des signes qu'on appelle généraux ou systémiques, avec en général une fatigue intense, des maux de tête, des courbatures. Et puis, on va avoir des signes respiratoires, une toux, éventuellement des difficultés à respirer. Donc ça, c'est vrai que c'est les symptômes de la grippe, et c'est ce qu'on va regrouper sous le terme aussi de syndrome grippal ou pseudo-grippal.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, différence entre la grippe, dont la maladie qu'on est en train de traiter, et le syndrome grippal ?
Donc la grippe, c'est les symptômes qu'on a évoqués et qui sont dus au virus influenza dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on a une preuve que les symptômes, les signes présentés par le patient est dû à ce virus-là. Le syndrome grippal, en fait, c'est tout ce qui peut... C'est en fait les mêmes signes, mais qui peuvent être dus à d'autres virus respiratoires. En fait, on le sait, il y a tout un tas de virus respiratoires. On en a beaucoup parlé avec le virus, le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19. Ces virus respiratoires qui se transmettent de la même manière vont donner à peu près les mêmes tableaux cliniques. Donc c'est vrai que quand on parle de syndrome grippal, c'est des symptômes qui pourraient être dus à la grippe, mais qui pourraient être dus également à d'autres virus respiratoires. Et la problématique, c'est que quand on est en tout cas en médecine de ville, en médecine ambulatoire, les médecins généralistes sont confrontés à des patients qui présentent tous ces genres de symptômes.
Un tableau de grippe.
Un tableau, en tout cas, d'infection due à un virus respiratoire, mais pour lequel on n'a pas possibilité, comme on le voudrait en tout cas, de distinguer la grippe d'autres virus respiratoires parce que les tests ne sont pas aussi facilement
accessibles. C'est la question sur laquelle je voulais rebondir. Demandant, on faisait diagnostic de la grippe clinique, il n'y avait pas d'examen biologique. Est-ce qu'il y a un examen qui permet de marquer le virus grippal ?
Oui, il y a des tests. Donc, comme pour le Covid-19, on peut faire des prélèvements nasopharyngés, des écouvillons, et sur lesquels on peut faire soit un test antigénique, soit une PCR. Et donc là aussi, on va rechercher spécifiquement le virus de la grippe.
Et les jeunes médecins peuvent le faire au cabinet ?
Oui, on peut faire surtout les tests antigéniques. Les PCR doivent se faire dans les laboratoires. C'est vrai que les années précédentes, on attribuait en fait beaucoup de syndromes grippaux. On disait que tout était attribué à la grippe. Et en fait, maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a pas que la grippe.
Il y a
d'autres virus qui circulent, et notamment qui circulent en même temps que la grippe.
D'accord. Donc, un médecin, si vous en trouvez un, peut vous faire une ordonnance avec un PCR grippe. Et à ce moment-là, vous faites un, vous dites j'ai la grippe ou j'ai pas la grippe.
Voilà, c'est ça. Après, les PCR, il y a le problème aussi de l'accès, du remboursement de ces tests, donc ils ne sont pas aussi faciles que pour le Covid-19,
oui, là,
ce qui a rendu les choses très, très particulières.
Très bien. Alors, et pouvez-vous nous dire comment se transmet l'infection de la grippe ?
Alors, le virus se transmet par voie respiratoire. Donc, en fait, une personne qui est malade va transmettre de deux manières. Donc, il y a ce qu'on appelle la projection de gouttelettes, c'est-à-dire c'est des grosses particules.
De flush.
C'est ça. Quand vous éternuez, par exemple, ou vous toussez, si vous ne portez pas de masque ou vous ne mettez pas la main, vous projetez en l'air des gouttelettes qui vont transmettre du virus respiratoire et qui vont aller soit contaminer la personne en face de vous, soit contaminer des surfaces inertes. Et une personne derrière peut poser la main, je ne sais pas, sur des clés ou sur une table, et puis après porter ses doigts à ses muqueuses au niveau des yeux, au niveau de la bouche ou du nez, et se contaminer.
Donc ça se passe aussi par les mains, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains, il faut essayer de ne pas trop toucher les gens.
Et
donc ça se passe par voie respiratoire. Un genre de brumisa comme on a dans les bombes, hein, puis on le respire. On a cette idée. Moi, je disais aux gens, la manière de quand les gens fument à côté de vous, vous croisez quelqu'un qui fume et qui recrache sa fumée, automatiquement, vous avez l'odeur de la fumée. C'est les particules et vous fumez ce qu'il a fumé, quoi. Donc là-dessus, il peut y avoir des germes et vous contaminez comme ça. Donc aussi évidemment, par tout ce qui est baiser, etc., c'est-à-dire contact direct, et puis par le toucher.
C'est ça. Et puis, pas ce contact. Donc, si vous êtes proche d'une personne qui a la grippe, sans protection, sans masque, vous avez un risque de contamination. Donc là, on retrouve tout ce qui a été bien dit et bien évoqué au moment de la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a l'hygiène des mains quand vous toussez, le fait de porter un masque si vous avez des symptômes respiratoires, ça c'est important, ça vaut pour le Covid-19, ça tout le monde le sait maintenant, mais ça vaut pour tous les autres virus respiratoires.
Oui, la transmission, c'est un peu la même avec le Covid. Exactement. Donc, on a fait une éducation quand même pour tous les patients et la population sur le Covid. Il faut le rapprocher à la grippe et on a les conduites à tenir par rapport à la grippe. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus en 3.2 FM. Mais aussi, vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioalliance+.fr. Je vous propose une pause musicale en écoutant Jean-Sébastien Bach, Prélude et fugue en do mineur, dans le clavier bien tempéré, livre 1, BWV 847. Thank you. Nous recevons aujourd'hui le professeur Paul Loubet, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales CHU de Nîmes, qui nous parle de la grippe. Existe-t-il des différences de gravité suivant les populations nourrissons de moins de 6 mois, femmes enceintes, personnes âgées de 65 ans et plus, personnes de moins de 65 ans, immunodéprimées, ou il y a une maladie chronique, personnes souffrant d'obésité?
Alors oui, ce qu'on sait pour la grippe, comme avec beaucoup d'infections, c'est que quand ces infections surviennent sur des terrains fragiles, la grippe est plus grave, la durée va être plus prolongée, puis surtout on peut faire des formes graves qui peuvent conduire à l'hospitalisation, voire dans certains cas au décès. Donc on sait que les âges extrêmes, les très jeunes nourrissons et puis les personnes âgées sont plus à risque de faire des formes graves. Par âgé, on entend plus de 65 ans, et plus on est âgé, au-delà de 65, 75, 80, 85, et plus on est à risque de faire de formes graves. Les personnes qui vivent avec des pathologies chroniques respiratoires ou cardiaques, insuffisance cardiaque, BPCO, des choses comme ça.
BPCO,
c'est les bronchites chroniques obstructives, souvent liées à la consommation de tabac, entraînent des formes plus graves parce que les poumons sont déjà fragilisés, la grippe va aller toucher des poumons et donc va arriver en fait sur un terrain déjà fragile. Ce qu'on sait, c'est que les femmes enceintes également, par rapport à des femmes non enceintes du même âge, peuvent faire des formes graves de grippe.
D'accord, donc il faut vacciner les femmes enceintes, ou les femmes qui voudraient être enceintes, il faut qu'elles se vaccinent, parce que le fait d'être enceinte, cet état physiopathologique normal, fragilise quand même.
Exactement, et donc en plus, la vaccination antigrippale est recommandée en cours de grossesse depuis de nombreuses années, même si on sait que la couverture vaccinale chez les femmes enceintes est basse.
Voilà, alors rappelons que le vaccin ne risque rien, on peut se faire vacciner. Ça ne risque absolument pas pour le bébé, pour la dame.
Exactement, et surtout, ça a un double intérêt, c'est-à-dire ça va protéger d'une part la femme enceinte de faire des formes graves de grippe, et en plus la femme enceinte va développer des anticorps contre le virus de la grippe qui vont passer à travers le placenta au fœtus, et l'enfant va naître avec les anticorps de la maman qu'il va garder pendant quelques mois.
D'accord.
Et donc va le protéger dans ses premiers mois de vie.
Alors, quels sont les traitements de la grippe?
Alors ça, c'est vrai que c'est un peu là où le bas blesse. Il y a relativement peu de traitements. Il y a actuellement un traitement qui s'appelle l'oseltamivir, le Tamiflu, qui est un inhibiteur, la neuraminidase, qui touche...
Alors, le Tamiflu, c'est le nom de commercialisation.
C'est ça, le nom de commercialisation de ce médicament qui existe, qui a montré un bénéfice sur la réduction de la durée des symptômes et qui est recommandé chez les personnes les plus à risque. Voilà. Mais c'est vrai qu'on manque un peu quand même de traitement, on va dire, qui soit très efficace. C'est vrai que l'efficacité de ce traitement est débattue. C'est vrai qu'on a tendance à le donner chez les personnes les plus à risque de faire des formes graves de grippe. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un arsenal thérapeutique un petit peu plus important en termes de traitement antigrippal.
D'accord. Et alors, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, les antibiotiques, puisque c'est un virus, ne marchent pas. Mais est-ce qu'il y a des surinfections sur des grippes? C'est-à-dire que le problème, c'est quelqu'un qui a une grippe et qui fait une surinfection bactérielle sur la grippe.
Exactement.
Que j'ai rencontré en pratique. Donc, à ce moment-là, les antibiotiques doivent être automatiques.
C'est ça. Donc, c'est effectivement quelque chose de très important à souligner. Une infection par le virus de la grippe seule ne doit pas entraîner la prescription d'antibiotiques, ça ne marche pas. Donc c'est une infection qui va finir par guérir spontanément ou grâce à l'utilisation du Tamiflu dont je viens de parler. Après, comme vous l'avez très bien dit, il peut y avoir des situations où les virus de la grippe vient être surinfecté par une bactérie, et ça survient principalement chez les personnes âgées ou les personnes qui ont des pathologies pulmonaires ou respiratoires chroniques. Et dans ce cas-là, oui, un traitement antibiotique peut être nécessaire.
Alors on le voit, moi je l'ai vu en ville, donc les gens me disaient non, et mes confrères me disaient non, on a aussi une surinfection, notamment des expectorations, c'est-à-dire des crachats, comme on dit, qui ne sont pas de la grippe, qui sont beaucoup plus solides, etc., et avec des signes cliniques qui font que ce n'est pas une grippe, il y a autre chose, donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire une antibiothérapie, même si les antibiotiques... C'est pas automatique, c'est au médecin à choisir. Alors on n'a pas parlé, mais il y a les traitements symptomatiques, c'est-à-dire les traitements qui vont contre la fièvre, les douleurs, donc le paracétamol, l'aspirine.
Alors, s'il faut conseiller quelque chose, c'est plutôt le paracétamol, qui est vraiment la molécule qui présente le moins de risques, à condition bien sûr de ne pas dépasser les doses journalières. Mais oui, c'est vraiment ce qu'il faut recommander, en plus du repos surtout, et puis voilà, comme vous le disiez aussi, manger, s'hydrater, surtout quand on a beaucoup de fièvre.
Ouais, il faut rappeler que le paracétamol est un bon médicament, qu'utiliser l'ergamanu maintenant, je veux dire, c'est, mais qui est un médicament toxique, notamment hépatique, donc il ne faut pas prendre 6 grammes, 3-4 grammes, pas plus. Et il ne faut pas prendre du paracétamol toutes les heures. Et sinon, une drogue.
Oui.
Donc après les traitements, quelles sont les préventions de cette maladie, la grippe?
Alors la prévention, il y a deux manières. Il y a d'une part le fait d'éviter la contamination par voie respiratoire. On en a parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a vraiment, quand on se sait malade ou qu'on a des symptômes respiratoires, le fait de porter un masque et de garder les réflexes qu'on a pu acquérir et pour lesquels on a eu quand même une éducation un petit peu de la population au moment de la pandémie de Covid-19. Donc ça, c'est vraiment un point particulier. Et puis après, le pilier vraiment de la prévention, c'est la vaccination.
Donc il faut se faire vacciner. Le message ici, c'est un message de médecine moderne. Donc il faut se faire vacciner. Il ne faut pas avoir peur du vaccin. La peur du vaccin actuellement est un peu anormale. Donc il faut vraiment se vacciner pour la grippe. À tout âge,
exactement,
donc même pour les adolescents, parce que pour un lycéen, si jamais il attrape la grippe, ça peut être une perte de temps au niveau de son éducation.
Exactement. Il y a deux bénéfices au vaccin. Il y a d'une part la protection individuelle, donc en se vaccinant, on se protège, et puis il y a une protection collective, c'est-à-dire qu'en se faisant vacciner, on diminue la transmission et les chaînes de transmission de ce virus qui circule moins et qui contamine moins d'autres personnes. Donc il y a des gens pour lesquels il est spécifiquement recommandé de se faire vacciner, c'est les gens qui sont à risque de développer des formes graves, donc toutes les personnes de plus de 65 ans, toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui ont une pathologie chronique, donc pathologie cardiaque, pathologie respiratoire, diabète, pathologie neurologique, hépatique, insuffisance rénale chronique, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes obèses, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé médicale et médico-sociale. Donc voilà, ça fait beaucoup
pour
de
toutes les personnes que vous avez citées, c'est pris en charge par la sécurité sociale.
Exactement.
Il est un peu malheureux, on peut le dire ici, quand même pour nos auditeurs et pour les décideurs, que le vaccin ne soit pas pris. Parce que je pense que si le vaccin était pris, il y aurait une économie de santé importante, parce qu'il y aurait moins de grippe, donc moins d'arrêt de maladie, moins de soins. Mais enfin, ça, bon,
c'est ça.
Comme diraient des personnes qu'on a beaucoup aimées, cela ne nous regarde pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes sont touchées par la grippe en France et puis aussi dans le monde, chaque année?
Oui, alors chaque année, c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir des chiffres exacts parce que ça varie selon les années. C'est vrai que chaque année, il y a une épidémie de grippe dont l'intensité peut varier, qui peut être plus ou moins longue dans le temps et toucher un nombre de personnes plus ou moins important. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a à peu près 2 à 6 millions de cas de grippe chaque année en France.
6 millions quand même, 2 à 6 millions, ça fait...
Ouais, c'est une fourchette qui est relativement 4, large, ouais. Mais c'est assez important. Et surtout, on a un nombre de décès qui est entre 10 000 et 15 000 selon les années directement attribuables.
Donc à la grippe.
On meurt de la grippe. C'est vrai que les personnes qui meurent de la grippe sont majoritairement des personnes de plus de 65 ans,
oui,
voire même
à risque,
de plus de 75-80 ans. Mais oui, il y a chaque année des décès qui sont directement attribuables au virus de la grippe. Et dans le monde, bah, du coup, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Avec, on estime le nombre de décès chaque année dans le monde de la grippe entre 300 000 et 600 000.
600 000,
ouais. Ouais.
Donc il faut se vacciner. Alors, j'ai une question un peu particulière qui me vient. Je reviens d'Afrique de l'Ouest, donc il y a une population particulière avec une promixité, moi, j'ai eu des quartiers. Est-ce qu'on a des chiffres de la grippe dans des populations comme ça où il n'y a pas d'études?
C'est difficile parce que pour justement suivre ces chiffres de grippe, il faut avoir des systèmes de surveillance mis en place, donc il existe dans beaucoup de pays à revenus importants, ouais. C'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest, donc la possibilité de surveiller la circulation de la grippe dans ces pays est pas évidente, donc on n'a pas de chiffres précis. Non.
Parce qu'en tant que médecin, je vous le dis, j'ai traversé un quartier avec une population de petits énormes, fait une promiscuité dans la rue, toutes les pathologies infectieuses doivent galoper, et c'est vrai que moi, je connais pas de chiffres ou d'études sur ces populations.
Quoi. Non, c'est pas évident. Ça a été le cas aussi avec le Covid. On a eu beaucoup de mal à avoir des chiffres exacts
parce que
du nombre de personnes contaminées en Afrique, par exemple. Donc ça reste un peu. Il y a un peu un trou dans le radar à ce niveau-là.
À Saint-Louis, on a traversé, parce que c'est une petite expérience de voyage, on a traversé le quartier dit des pêcheurs. C'est intéressant parce qu'on l'a fait en calèche. Parce que voilà, il y a plusieurs dimensions. Vous avez 3 dimensions, plus l'odeur, etc. Et il y a une population qui fait que... Enfin, moi, je me suis dit, mais dans une population comme ça, n'importe quel virus, il doit y avoir des morts infantiles, tout ça.
Oui, mais c'est...
On ne sait pas quoi. Hein.
C'est une des grandes difficultés, oui, en Afrique, avec la mortalité infantile, la mortalité par maladie infectieuse, les enfants et la population qui meurent de pathologies qu'on n'a plus en France ou pour lesquelles on est bien protégé.
Ouais, on ne se rend pas compte que cette population... Enfin, moi, j'ai été extrêmement choqué par le démuni de cette population. Et je vous dis, en traversant, alors là, c'était criant dans ce quartier, je me suis dit, mais c'est vraiment... C'est catastrophique, quoi. Avec l'image d'une maladie infectieuse, c'était vraiment catastrophique.
On ne se rend pas compte à la fois de la difficulté et des situations dans lesquelles vivent ces populations, et puis on ne se rend pas compte non plus en parallèle de la chance de vivre dans nos situations, avec le système de santé qu'on peut avoir, les systèmes de prévention, dont la vaccination, qui est souvent décriée, mais qui protège quand même contre énormément
de choses. Parce que quand on fait l'expérience de l'Afrique comme ça, moi je fais l'expérience de différents cas, quartiers ou de marchés, etc. Et puis quand on revient ici, je veux dire, c'est un autre monde, quoi. Mais il me reste à bien vous remercier, professeur Paul Loubet, pour votre présence à nos côtés et ses nombreux éclaircissements sur cette pathologie que tout le monde connaît et redoute, la grippe. Merci à vous infiniment.
Merci.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, La grippe de Georges Werner aux Presses universitaires de France, que sais-je, de 2019, La grippe de Carole Vallière, collection Quoi de Neuf, édition Logique, La grande grippe, comment la grippe espagnole est devenue la pandémie la plus meurtrière de l'histoire, de John Barry et Richard Robert, pour la traduction chez Aliso Histoire. Les rhumes et la grippe, docteur Elga, S.L.E. aux éditions En Forme. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliance+.fr.